Interview.
Salut.
Salut Martin.
Salut Baptiste.
Donc la brasserie après l'orage, on est à Marignac.
C'est ici.
Voilà.
Et on est très content de t'accueillir.
Bon.
Et de recevoir un biscuit à domicile.
Sent bon.
Et ouais.
On a brassé une American Pale Ale. Et là, on est à la phase d'ébullition. Ça, c'est un peu calme. Ce qui tombe bien.
Voilà. Et juste avant, vous étiez dans le speed.
Et avant, on était dans le speed, ouais, parce qu'il fallait transvaser la bière, le mou, ça s'appelle, là, qui avait cuit. Pour la phase d'ébullition, il fallait préparer le fermenteur qu'on avait nettoyé pour qu'il soit nickel, pour qu'après l'ébullition, on puisse transvaser la bière dedans. On a pesé les houblons, on a pesé le malt aussi, il y avait 17 kg de malt à moudre parce qu'on enchaîne sur un deuxième brassin pour optimiser nos journées de travail. Et voilà, en gros.
On brasse deux fois dans la même journée. Nous, on appelle ça un double brassin, il y a plein de brasseurs qui font ça parce qu'on est limité. Nous, on a des petites cuves qui font 80 litres. Et du coup, on brasse en produit fini, on arrive à 65 litres fini à peu près. Donc on brasse deux fois dans la même journée pour essayer de sortir 130 litres.
Voilà, donc c'est vraiment la pure brasserie artisanale, ça cuit sur un chariot quoi. Vraiment, c'est
la
au niveau micro, norme de
c'est la picolinette brasserie.
Ouais. Non, nickel, on s'est fait, on a eu, tu vois, les Alp Control qui avaient nous certifié pour le bio.
Excellent.
Et puis, ils ont rien eu à redire sur notre petit chariot qui supporte les cuves.
Bon allez, on va parler de vous, Martin. Ouais. C'est pas du tout ton métier d'être brasseur.
Non, c'est mon quatrième métier peut-être, brasseur. Ouais. C'est ça. Ouais, bah écoute, ouais, c'était...
Et t'étais à un moment aussi dans ce dernier métier où il fallait s'arrêter.
Dans la charpente,
ouais.
Et le bâtiment, ouais, bah c'est surtout que c'était un univers qui me plaisait pas spécialement, au final, où je me suis pas amusé, et voilà, je me voyais pas continuer là-dedans. Donc il y a une petite phase de réflexion qui a pris un ou deux ans, et puis on a cogité pendant une bonne année avec Max sur ce projet de bière. Et puis jusqu'à se lancer quoi.
Voilà.
Et c'est un super super kiff.
Voilà. Et Max, toi tu sais quoi ton parcours?
Mon parcours, j'étais éduc.
Voilà.
Et donc comme beaucoup d'éducs, on se reconvertit. Alors c'est beaucoup dans la restauration, mais on se reconvertit. Donc moi c'est la bière. C'était un rêve d'une dizaine, quinzaine d'années de faire de la bière déjà en amateur, mais j'avais jamais franchi le cap. Et là il se trouve que j'ai arrêté mon précédent boulot. Et il se trouvait que j'avais du temps là pour cogiter réellement. À 40 piges, tu te dis, tu fais le bilan de ta vie et tu te dis, bah allez, on va peut-être essayer de réaliser ses rêves. Et donc avec Martin, on s'est bien branché là-dessus.
Parce que vous faites de la ZIC ensemble depuis un moment, ça j'ai quand même envie de le dire, parce qu'on vous a déjà entendu sur RDIWA, notamment pour ça.
C'est vrai.
C'est vrai.
Mais on a fait de la ZIC. Maintenant, on n'en fait plus. Maintenant, c'est non avec les Moonshiners.
Oui.
Voilà.
Mais alors, vous deux.
La bière, ça nous prend beaucoup de temps. Ouais. Mais il faudrait qu'on s'y remette.
On sortir une guitare en fin de soirée de temps en temps, tu vois. Mais on va pas dire que ça reste. C'est plus un projet, quoi, la musique. La bière nous occupe. C'est vrai que ça nous occupe bien.
Ouais. J'étais pas assez bon guitariste. Il m'a viré.
Bon, ça va alors. Si c'est une association différente. Mais c'est pas n'importe quoi. Tu dis, on fait le bilan de notre vie, 40 ans. Bon, voilà. Toi, tu te lances dans un quatrième boulot. Faire de la bière en amateur, certes, mais là, vous avez déjà commencé à occuper des réseaux sociaux. Il y a des étiquettes, vous allez les vendre. C'est une entreprise, quoi. C'est quand même pas...
Ouais, on avait quand même ce projet d'essayer de créer notre activité, d'en vivre. Là, on n'en vit pas encore, mais on est tous les deux au chômage. Donc, on profite de cette période de chômage pour lancer le projet. Par contre, on a brassé pendant une petite année en amateur à faire des brassins de 20 litres, déjà pour apprendre. Et après, pour travailler nos recettes. Et ça nous a pris une petite année et on brassait toutes les semaines, on a pas mal brassé. Et puis, arrivé à la période de l'été, on a vu qu'on avait des retours sympathiques sur nos bières. Et donc, on s'est dit, on lance l'entreprise, on va dire. Et donc là, on est officiel depuis octobre, donc c'est tout récent. C'est pour ça que là, on communique, on est sur les réseaux sociaux et puis on commence à démarcher les distributeurs. On a fait des petits marchés aussi cet été. Pour justement avoir des retours en direct des gens. Donc
cette phase de test, justement, c'est un peu obligatoire selon vous. Enfin, on peut pas arriver comme ça avec des recettes qui seraient, je sais pas, qui existent déjà, qu'on trouverait sur internet. Pouf, non, faut trouver les siennes.
Ah ouais, c'est sûr qu'il faut se faire la main parce que en fait, c'est quand même assez, c'est un petit peu technique la fabrication de la bière. Il y a des paliers de température à respecter qui sont hyper précis. Il y a des.
Tu sais, vous l'avez pris où d'ailleurs?
Ah bah ça, on a pris dans des bouquins, sur des forums, sur internet, auprès des brasseurs qui brassent déjà, auprès desquels on est allé poser quelques questions.
On a rencontré quasiment
tous les brasseurs du Diwa.
Du Diwa. On est allé rencontrer Babas de la Bascule, Laetitia de la Cavale, Nicolas de la Manivelle et
Fabien Stabil. Fabien, ouais. Net,
ça vous êtes bien reçu?
Super, bien reçu. Ouais,
franchement, très très sympa le monde des brasseurs.
Bienveillant.
Ouais.
Et ils nous ont donné plein de bons tuyaux aussi sur la fabrication de la bière. Donc il y a ça, il y a le concret où on est allé sur place aussi voir ce que ça représentait. Et puis oui, sur internet on trouve plein de choses, sur des forums, sur des blogs, sur.
Et après, il faut faire, parce qu'il y a aussi tous les dosages, tu vois, de malt. Tu peux suivre une recette qui te paraît bien, et puis quand tu l'as fait, en fait, tu te rends compte que ça ne correspond pas du tout à ce que tu voulais faire. Donc tu vas réduire le malt, ce malt, augmenter celui-ci, pareil pour les houblons. Et puis comme il faut attendre 6 semaines à chaque fois, minimum, avant de pouvoir goûter ta bière, c'est long ce processus. Donc il faut forcément passer par une phase où tu fabriques, et puis tu te trompes, et puis tu réajustes, et c'est un peu long, quoi.
Vous avez jeté?
Non, tu rigoles. On a quasiment rien jeté.
Vous êtes forcé à boire des trucs
presque.
Pas bons?
Ouais, quasiment. Sauf
la toute première.
Ouais.
Brassin 1 et 3, on les a balancés quand même.
Quelques heures, ouais. Mais ça va, c'était 30 litres à chaque fois, c'était pas énorme. Ça faisait pas trop mal au cœur.
Mais la bière, c'est assez gratifiant parce que rapidement, on arrive à un résultat quand même. Ça paraît une montagne, mais quand t'es bien équipé, ce qui est un peu plus complexe, c'est avoir la logistique. Une chambre chaude. Pour la période de fermentation en bouteille, où il faut que ça soit maintenu 3 semaines à 18-20 degrés. Un espace froid aussi pour faire refroidir tes fermenteurs et faire sédimenter la levure, ce qui permet de filtrer. Donc voilà, si t'es bien équipé et que tu es assez consciencieux sur le nettoyage, et ben du coup, il n'y a pas de raison que ta bière soit ratée. Et après, c'est une histoire de goût. Nous, maintenant, on essaie de faire des bières qu'on aime, nous, en espérant que ça va plaire. Et puis, on se base aussi sur les retours des copains et puis maintenant des clients de nos bières qui nous font tous ces retours. Ouais.
Quel investissement pour utiliser pour faire 130 litres
130 litres finis par brassin. Et ben là par exemple, toute cette unité de brasserie d'occasion qui comprend les 3 cuves là pour brasser plus les 2 petits fermenteurs de 100 litres que tu vois là-bas, on en a eu pour 1000 euros à peu près. On a trouvé ça sur le bon coin en occasion. Et puis après, on a investi dans un fermenteur 200 litres là-bas qui, lui, a un système de réfrigération à l'intérieur. Ça coûte 400 et quelques euros. Et puis là, on a investi dans une nouvelle unité de brasserie avec des cuves, cette fois-ci, en 200 litres, pour brasser 200 litres en un seul brassin. Et plus de nouveaux fermenteurs, et ça va chiffrer dans les 6-7 000 euros, pour donner une idée.
Et du coup, alors, pour le démarrage, on a investi avec nos fonds propres, pour le début de matériel et puis un peu de matière première. On a la chance d'être dans ma cave. Là, ici, c'est chez moi. Du coup, on ne paye pas de loyer. Donc ça, c'est vraiment un atout fort. On ne se rémunère pas encore aussi. Donc en fait, là, l'idée, c'est d'équilibrer les dépenses, les recettes et puis se faire une petite trésor pour agrandir. Pour investir dans la nouvelle brasserie en 200 litres, on a fait un système de titres participatifs où les gens peuvent en fait, nous acheter des titres. C'est une sorte d'épargne solidaire. Ils nous achètent des titres, donc là on les a mis à 100 euros et on rend la somme investie au bout de 7 ans avec des intérêts à 2%. Donc c'est mieux qu'un livret A. Je fais un peu de pub. Non, mais c'est à dire, voilà, c'est une épargne.
C'est terrible de comment c'est venu cette idée.
Alors voilà, en fait, c'est bien que tu poses la question parce qu'on va pouvoir revenir sur comment on s'est structuré officiellement. C'est qu'on a intégré le GRAP, le Groupement Régional Alimentaire de Proximité, qui sont basés à Lyon.
Une antenne à la Carline, ça.
Et ils ont maintenant, depuis peu là, ils ont depuis un peu plus d'un an, ils ont une antenne à la Carline. Leur projet, c'est une société coopérative, une SIC d'intérêt collectif, basée à Lyon, et ils voulaient rayonner à 150 km autour de Lyon, et ils ont englobé le Diwa. Ils ont vu qu'il y avait du potentiel, et donc ils ont créé une antenne qui sont dans les mêmes bureaux de la Carline. Le fait d'intégrer cette SIC, ça nous a plu parce que pour nous, c'était assez réconfortant. On a quelqu'un qui nous suit sur le projet, qui nous a aidé à faire les budgets prévisionnels. On peut bénéficier d'une comptable, Nina. Leur réseau de distribution aussi, parce qu'ils ont plein d'épiceries bio. Donc à l'avenir, quand on va vouloir un petit peu se développer, on va pouvoir faire des liens plus simples, même en termes de livraison, avec tout leur réseau d'épiceries bio qui sont dans le Rhône-Alpes. Et sur les titres participatifs, c'était en réflexion avec eux, ils nous ont proposé ça pour avoir cette somme. Voilà, on recherche entre 6 000 et 7 000 euros pour investir. Et donc voilà, il y a eu différents modèles, hein, mais celui-ci nous a trouvé intéressant. Ça nous a évité de faire un prêt, mais en même temps, les gens qui nous soutiennent dans ce projet-là vont récupérer leur argent avec un petit peu d'intérêt. Voilà, on trouvait que c'était intéressant, comme c'était gagnant-gagnant.
Et alors, j'entends bio, j'entends houblon local aussi. Comment ça s'est monté, ce truc-là ? Il y avait déjà l'offre qui était en train de se créer. Pour vous, c'était évident ?
Alors, qu'il fallait être en bio, c'était une évidence à 100%.
Donc, une certification.
Donc, une certification. Ouais, exactement. On paye le label. Donc nous, on a pris nos matières premières en bio dès le début, en fait, même quand on brassait pour nous. Et on continue comme ça. L'enjeu aussi, c'était d'arriver petit à petit à trouver des matières premières localement. Et ça, c'est pas évident parce que la plupart des brasseurs, depuis une dizaine, quinzaine d'années que les microbrasseries sont en plein essor, la plupart des brasseurs se fournissent en Belgique ou en Allemagne parce que là-bas, ils ont gardé un savoir-faire au niveau du malt, c'est-à-dire de torréfier les grains d'orge. Et ce sont des très gros fournisseurs de houblon. Et ça, eux, ils ont ce savoir-faire depuis toujours, ils ne l'ont pas perdu. En France, nous, on ne l'avait plus. Donc, du coup, on a commencé, nous aussi, à se fournir là-bas, parce qu'il y a une offre, un rapport qualité-prix, en fait, sur les matières premières qui est super. Mais on s'est tout de suite dit, voilà, la Belgique, c'est pas très loin, mais ça reste quand même à 1000 bornes. Et on aimerait bien essayer de retrouver, de rôner avec un terroir un petit peu de la bière. Mais le malt, pour l'instant, jusqu'à présent, ça n'existait pas beaucoup. Il y a des micro-malteries qui ont ouvert un petit peu en Rhône-Alpes, mais on ne savait pas trop ce que ça donnait.
On savait qu'il y en a une
vers Romans, là où je
peux. Qui est en train d'ouvrir. On va aller les rencontrer en décembre. Et on a pris du malt aussi. On a fait quelques brassins avec Malting Pot qui est en Haute-Savoie.
Ah oui.
Ouais, un gars qui s'appelle Vincent Lepotier qui a monté ça, super accueillant, il nous a fait visiter la malterie et on est reparti avec quelques sacs.
On reparle à maltais, hein, c'est l'orge.
Maltais, c'est l'orge qui est touraillé ou torréfié, c'est-à-dire qu'on va lui donner une couleur de plus en plus foncée, caramélisée en fonction du touraillage ou de la torréfaction.
Ouais, ce qui permettra de faire une stout ou
une pils, le plus clair, ou alors effectivement des stouts.
C'est un processus, un travail sur la céréale, donc il y a du malt d'orge, de blé, de... Voilà, c'est pas le malt n'est pas la céréale, c'est une transformation de la céréale.
Donc du coup, on a testé sur un brassin le malt de Malting Pot, et là, on a de grosses attentes par rapport à la malterie de Romans qui va ouvrir incessamment sous peu. On doit aller les voir au mois de décembre là, pour tester, revenir avec quelques sacs de malt et puis les tester, voir si ça nous convient, et on espère que oui. Et ensuite, sur les houblons, on a déjà commencé à travailler avec des producteurs de houblons d'ici, qui travaillent depuis...
Ça, c'est frais, là, à Mont-Laure.
Ouais. Ouais. À Mont-Laure et à Boulc.
Pour tous les gens qui se demandent qu'est-ce que c'est que ces trucs qui pendouillent sur l'immense poteau, c'est le houblon.
Ouais, c'est le houblon.
De Charles Limars, celle qu'on voit à Mont-Laurent-d'Iois, qui est bien visible. Et il y a Xavier Perrard
et Marie Langlais sur Boulc. Qui font du houblon. Alors, Charles Lely, lui, il a une production diversifiée, il ne fait pas que du houblon. Par contre, Xavier et Marie, eux, ils veulent essayer de vivre que de ça. Donc, ils veulent avoir une production assez conséquente. Et donc, on les intègre petit à petit dans nos recettes pour voir ce que ça donne et en espérant pouvoir travailler qu'avec ça à terme.
Là, ce n'est pas de la weed.
Ça ne se voit pas à l'image si c'est de la weed ou pas, mon cher Maxime.
Mais c'est pour toi. Je vois que tu as les yeux qui frétillent.
Oh là là, cette réputation. Donc là, j'aime beaucoup la bière aussi. Hein.
Ah bon.
J'ai mis une au frigo d'ailleurs, si j'avais pu goûter.
Bah, enfin, bien APA. Sûr. Du coup, là, on a une variété de Charles Limars. Donc, c'est en cône, en fleurs séchées. Et puis là,
qu'est-ce que c'est, voilà, on rentre dans le détail. Qu'est-ce qu'on prend du houblon pour faire la bière ? La fleur.
C'est la fleur, qui font sécher, ça fait un cône. D'ailleurs, il est souvent symbolisé en forme de petit cône, là, comme ça.
Ça ressemble un peu à un chou, un artichaut.
Un artichaut, voilà. Exactement. Et donc là, on les insère dans une partie de nos recettes, surtout dans l'American Pale Ale et l'ambré qui va bientôt sortir, qui est en fermentation bouteille, là. Et donc l'idée, ce serait de pouvoir faire toute notre production avec leur houblon. Alors ils se lancent aussi tous les deux, donc nous on a pu prendre que des petites quantités, donc on va les écouler au maximum, mais
les autres brasseurs du coup aussi, ils ont envie de bosser avec eux, non?
Ouais, carrément. Et par rapport à ce que disait Martin, l'enjeu de travailler avec des matières premières locales, que ce soit pour le malt ou pour le houblon, en fait, je pense que c'est pour tous les brasseurs. Ils ont tous envie, on a tous envie à moyen terme, court terme, de pouvoir travailler qu'avec du local. Et d'ailleurs, c'est ce qui va, c'est un peu un avenir, l'avenir brassicole, c'est-à-dire que chaque bière, en fait, va se différencier par son goût de terroir, comme le vin.
Ça va sortir,
Et je pense que tout le monde l'a en tête, quels que soient même les brasseurs qui sont pas en bio et tout ça. Ils ont envie de
voir ce que ça fait,
dans l'idéal, ouais. Donc nous on le teste sur le houblon, mais par exemple la manivelle et la bascule, on se sont associés pour faire la Nation Ale, et pareil, ils ont pris du houblon local. Donc nous, ce qu'on fait, quand même on a peu de quantité, on le valorise, on met une pastille sur nos étiquettes quand c'est local, et quand c'est pas local, on met pas la pastille, pour essayer d'être le plus transparent possible.
Alors là, ça boue. On est à la fin de la phase d'ébullition. Donc on est en train de rajouter les houblons aromatiques. Hop. Un deuxième.
Pourquoi l'avoir mis si haute?
Ah, ça je sais pas, c'est vrai qu'il faudrait poser la question à ceux qui l'ont fabriqué. Si, c'est pour jouer sur la gravité.
Exact.
C'est ce qu'on a besoin de ça quand même.
Là on a une cuve tampon, là donc c'est la phase d'empattage, c'est une sorte d'infusion
Alors on va décrire un peu pour les gens. Donc c'est un espèce de meuble à roulettes à trois niveaux. Donc mettons, il y a le niveau le plus haut, celui du milieu, celui du bas.
C'est ça. Donc là c'est parce que c'est des petites cuves et c'est pour jouer sur la gravité. Mais en fait il y a beaucoup de brasseurs, plus les cuves sont grosses, plus c'est, en fait, tout est horizontalisé et il y a un système de pompe pour passer d'une cuve à l'autre. D'ailleurs là nous on en a une petite pompe là. Du coup là, la celle d'intermédiaire, on fait la phase d'empattage. Donc c'est une sorte d'infusion des malts qu'on utilise. Donc avant on va le concasser avec un petit moulin qui est derrière, qu'on te montrera après, pendant, on va dire, une heure. Et puis ensuite, nous, ce qu'on fait, on transvase le mou dans cette cuve tampon. Et là, qui est en bas. Et en haut, donc la cuve d'en haut a une double utilité, c'est qu'on va avoir une réserve d'eau bien, bien chaude pour ce qu'on appelle rincer les drèches. Les drèches, c'est les résidus de céréales qu'il y a dans la cuve. Il y a un filtre au fond qui va permettre de filtrer et de pas, et pour que le mou soit bien clair, et on va rincer ce gâteau en fait de céréales pour récupérer les sucres fermentescibles au maximum, ces sucres qui seront dans un temps suivant mangés par les levures qui va produire l'alcool et créer du CO2. Et du coup, de la cuve tampon, on renvoie une fois qu'elle est vide, on renvoie dans la cuve d'ébullition. Et là, on fait bouillir pendant une heure et on fait l'ajout des houblons à ce moment-là. Et ensuite,
c'est là qu'il y a la particularité de vos recettes à vous. Alors, c'est dans ce dosage dans la dernière cuve.
Par rapport au houblon, oui. Et après, il y a aussi le dosage par rapport au malt, parce qu'il y a différentes variétés de malt. Et donc, il y a par rapport au malt et ensuite, voilà, par rapport au houblon.
Voilà, vous faites quoi d'ailleurs, tiens? T'as branché plein de trucs là.
On prépare le refroidissement du moule. En fait, il faut que la bière, là, elle est à 98 degrés à peu près. Et il faut qu'elle atterrisse dans le fermenteur à 20 degrés environ pour qu'ensuite on puisse intégrer les levures et que les levures commencent à travailler. Et il faut
que ce soit chaud et crâne.
Voilà, exactement. Et c'est quasi instantané quand ça passe par l'échangeur à plaque en fait. Ça passe de 98 degrés à 20 degrés à peu près.
C'est quoi ça?
Un échangeur à plaque, c'est des couches de plaques de cuivre en fait. D'un côté, tu as de l'eau froide qui passe et de l'autre côté, tu as la bière qui croise l'eau froide et qui du coup se refroidit juste au passage dans ce petit truc là et qui atterrit là à la bonne température.
Vu la technique.
Ouais, mais on est obligé. Sinon.
À l'époque, ils attendent qu'ils refroidissent.
Ouais, c'est ça, ils attendaient. On n'est pas des spécialistes en histoire de la bière, mais c'était, il me semble, des cuves même ouvertes. Et c'était les levures, parce qu'il n'y avait pas la maîtrise des levures. Avant Pasteur, Hildegarde, tout ça, des scientifiques qui ont travaillé sur les levures. C'était les levures ambiantes, sauvages. Qui venaient.
Finissaient par s'y mettre une fois que c'était froid. Quoi.
Et après, quand ils arrivaient à trouver des bières qui étaient bonnes, ils récupéraient les levures Et puis il se les gardait comme du levain en fait pour le pain, et il les réinjectait sur les brassins suivants. Et bah, nous en fait on bénéficie quand même de l'avancée technologique et scientifique. Donc en fait l'idée c'est de refroidir, ça arrive à 20 degrés, on utilise des levures. Donc nous on fait des bières, des ale, parce que t'as les lagers, c'est...
on va rentrer dans les recettes, ouais. Allons-y.
C'est fermentation haute température et basse température. Et les brasseurs artisanaux, souvent ils font des ale, donc fermentation à haute température. C'est-à-dire que la levure, elle est active, à nous sur celle qu'on utilise, ils marquent entre 12 et 25 degrés. Mais elle travaille bien entre 18 et 20 degrés. Donc c'est plutôt haute température. Et les lagers, ça va être beaucoup plus bas, autour de 10 degrés. Et nous, on n'est pas équipés en fait pour... déjà pour refroidir le mou et après le maintenir bas.
Mais... Ouais, là, il faudrait des chambres froides, tout ça.
Ouais. Ouais.
En fait, ici, dans le Diorais, d'ailleurs, vous faites tous des ale.
Oui, alors après, selon les tailles des micro-brasseries, bah, la manivelle, je crois qu'ils font... Ils en ont fait. La pleine lune en fait. La guerre des étoiles.
Oui, tout à fait.
Ouais. Ouais, qui est bonne. Mais en fait, c'est vrai que c'est plus simple. Nous, on en a tenté des lagers. Mais c'était pas très concluant.
Parce qu'on n'avait pas les bonnes températures à ce moment-là aussi. Pour, parce que nous, dans l'espace qu'on a pour l'instant, comme tu l'as dit, c'est ultra artisanal et on avait des difficultés pour refroidir nos fermenteurs dans la première phase de fermentation. Parce que l'été, tu vois, la cave, elle est à 20 degrés. C'est pour ça qu'on avait acheté un fermenteur avec un petit système réfrigéré à l'intérieur. Mais malgré tout, c'était difficile d'obtenir les bonnes températures parce qu'il faudrait que ça descende à 12, voire 10 degrés. Et au printemps, l'été, c'est impossible, tu vois. Donc la lagueur,
malgré la cave quoi.
Même malgré la cave. Ouais. Et donc la lagueur, comme en plus c'est de la basse fermentation tout le temps, et ben c'était impossible. Et c'est pour ça qu'on a fait pas mal de travaux petit à petit dans cet espace, même s'il est réduit. Et là notamment c'est une partie qui est fermée qui va être qui va faire chambre chaude et chambre froide l'été.
Pour les fermenteurs.
Pour les fermenteurs. Voilà.
Ouais.
On a fait un système de.
Ah, d'ailleurs il fait déjà plus froid là-dedans. Hein quand même.
Là oui. Donc l'idée c'est de mettre un, soit une clim assez puissante, soit un groupe froid, surtout pour l'été. Là, nos fermenteurs, on les a mis sur chariot, sur roulette, ce qui nous permet de jongler avec les températures. Parce qu'il y a une, la phase primaire de fermentation dans le fermenteur, il faut que ce soit entre 18 et 20 degrés. Donc bah, l'hiver, il fait trop froid là, donc on le met là avec le radiateur. Et puis ensuite, pour obtenir des températures plus basses, on a juste à le sortir. Et l'été, l'idée, c'est de faire le système inverse. Et c'est parce que cet été on n'a pas pu beaucoup brasser à cause de ces températures et on avait des bières très troubles. Elles n'étaient pas mauvaises mais on filtre par le froid en fait. Un bon coup de froid ça va tout faire sédimenter la levure, tout ce qui est des, stagnant dans le mou. Et un bon coup de froid, il y a tout qui tombe. Et comme tu peux voir la vanne, les vannes des fermenteurs elles sont un peu surélevées pour laisser en fait toute la levure qui va tomber. Et après, on a une croûte, tout un dépôt de levure là, sous la vanne.
Voilà. Que vous pouvez récupérer et réactiver.
Ouais, c'est ouais, ça, exactement.
C'est un truc qu'on aimerait essayer de faire un peu plus tard.
Ouais, on l'a pas testé encore.
Il y a moyen sans doute de récupérer nos levures et de rebrasser avec. On sait pas encore comment.
Bon, alors sur vos recettes, parce que bon, je vais dire un truc que j'ai quand même dit déjà aux autres brasseurs, mais il y a beaucoup de brasseurs dans le Diois, mais il y a beaucoup de bières aussi qui sont dans. Dans la même, j'allais dire, technicité,
ouais, bien sûr,
qui vont donner du coup des résultats un petit peu différents. Est-ce que vous êtes allé, vous, chercher... Tu parlais d'une Pils, par exemple, il n'y en a aucun qui en fait une ici. Est-ce que c'est, peut-être que ce n'est pas possible, mais...
Bah, si, nous, on fait notre blonde, c'est une 100% Pils. C'est-à-dire que dans le alors, il y a un tout petit pourcentage de blé pour favoriser la prise de mousse, mais sinon, il n'y a que du Pils, le malt le plus clair. Donc, nous, on essaye de faire ça. On essaye de faire une bière 100% Pils et légère en alcool. Donc là, on est encore en train de chercher la bonne recette pour alléger le taux d'alcool, parce qu'on est encore un peu trop haut, selon nous, tu vois, on est autour de 5,5. On aimerait bien être à 4,5 pour que ce soit une bière, tu vois, l'été, qui se boive facilement.
Enfin, la bière de festival.
Voilà, voilà, exactement.
Bon, mais y en a qui en font, hein, Laetitia, elle a une
bière de soif.
Elle a une bière de soif. Babas aussi, et puis même Nico de la Manivelle. Je parle d'eux parce qu'on les connaît mieux, mais...
Tu sais si c'est les Pure Pils, ces bières-là, ou pas?
Je ne sais pas leur proportion de malt. Par contre, ce qu'il faut faire attention à la confusion, c'est quand on dit une bière pils, c'est ce qu'on appelle les lagers.
Justement.
Et, voilà. Et en fait, les lagers, c'est ce qui est le plus vendu dans le monde. C'est en fait c'est tout ce qui est Kronenbourg, Heineken. Ouais. Voilà, c'est des basses fermentations à basse température, je veux dire. Et nous, En fait, on, des fois, on dit notre bière, on veut faire une bière légère, une pils, parce qu'on utilise le pilsen en termes de malt, mais on fait pas une lager.
Et on ne veut pas non plus faire une bière qui ressemblera à une Heineken. Et du coup, ce qu'on essaye de faire,
heureusement,
voilà, c'est d'essayer d'avoir une combinaison de malt plutôt léger et de houblon plutôt puissant. Ce qui ferait une bière de soif, mais qui serait quand même assez goûtue.
Goûteuse.
Ouais, mais pas sur l'amertume, plus sur des arômes. C'est ce qu'on essaye de travailler en tout cas. Donc voilà, et ça c'est hyper, c'est passionnant parce que à chaque fois on change des tout petits trucs, tu vois, pour arriver à la bonne fabrication. Mais voilà, on est dans cette quête là pour notre blonde qu'on appelle blonde. Et après on a tout de suite développé une American Pale Ale qui est également une blonde, mais là qui est une combinaison de différents malts, donc qui a pas la même couleur, et une combinaison de différents houblons. Il y en a beaucoup plus que dans la blonde classique, on va dire. Donc de normalement, houblon, de houblon, ouais.
De souche américaine.
Ouais, de souche américaine.
Et
alors, c'est en plus, il faut que les locaux, là, ils fassent pousser plusieurs sortes de houblons, quoi.
Et oui.
c'est ce qu'ils font déjà.
Ils ont, je sais pas, 5-6 variétés minimum.
Plus que ça, même. Ouais. Je crois qu'ils en ont une dizaine.
Ouais. Ouais. Et Charlélie, ouais, aussi. Ils testent aussi. Ils attendent nos retours de brasseurs, voir sur lesquels nous emballent, nous plaisent, pour aussi adapter leur production.
Et donc cette American Pale Ale, c'est donc sa particularité, ce que tu disais, mais au niveau du goût, est-ce que là on a pas de a priori d'équivalent là?
Ben justement, c'était un peu l'idée, c'était que l'American Pale Ale, c'est pas une bière qui est souvent proposée, et en l'occurrence, elle n'était pas ici du tout proposée. Donc nous, on s'est dit, on pourra offrir quelque chose, tu vois, qui sera un petit peu différent. Donc c'était aussi une motivation sympa, quoi, d'essayer de faire quelque chose de différent.
Voilà. C'est une bière qu'on aime. Du coup, voilà, on part aussi de...
Qu'est-ce qui existe en marque qu'on pourrait connaître, que les gens se mettent tout de suite un goût là en tête
C'est la Brewdog, non
Bah, la Brewdog, c'est une IPA qui marche à fond, ouais, qui est très légère en fait, c'est une session IPA, et qui est, où il y a plein de houblons différents dedans. Et c'est vrai qu'en termes de goût, on pourrait se rapprocher de ça. Après, il suffit de...
Sans le chercher, hein, mais
sans
c'est
le chercher,
pour que
ouais.
Les gens se disent, tiens, ah ouais, je vois...
Bah, c'est une espèce de goût un petit peu, très fruité, qui va aller sur les agrumes. C'est vrai que c'est quelque chose que nous, on aime bien dans les bières. Et puis moi, c'est vrai que j'avais goûté beaucoup de bières artisanales aux États-Unis, et donc j'avais ce souvenir-là, tu vois, et j'avais envie de reproduire ça, même si c'est un souvenir très lointain. Donc c'est un mix de trucs qu'on a goûté ici et de choses qui appartiennent aux souvenirs, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est rigolo.
Et plus vos sensations une fois que vous
ouais,
êtes
exactement,
dedans.
Ouais, exactement.
La complexité, c'est que... Il y a tellement de paramètres à prendre en compte dans la confection d'une bière que on est au tout début, et en fait c'est voilà, il va nous falloir, je pense, des années, mais on est toujours tenté de, surtout sur les houblons là, en fait on teste plein de houblons, et donc il y a toujours un petit goût qui change, mais on essaie quand même là de stabiliser notre blonde et notre American Pale Ale. Et mais sinon, en fait, il nous faudra des années, parce qu'il y a aussi des systèmes de paliers au niveau de l'empattage. Donc, il y a le monopalier, les multipaliers. Et même ça, on le teste en parallèle. On teste des maltes, on teste des houblons, les températures. Enfin, voilà, c'est... En fait, on sait que peut-être que notre bière idéale, on la sortira que dans 5 ans, 10 ans. Enfin,
ah ouais.
Parce qu'à chaque fois, c'est du temps aussi. Il faut minimum 6 semaines pour avoir aussi le résultat de ce qu'on fait aujourd'hui, là. Et donc voilà, mais pour l'instant on est quand même bien motivé, passionné, donc
deux recettes
et trois, il y a l'ambré qui va sortir, voilà.
Alors, comment elle est, cette ambré?
Elle est pas mal, ça se joue beaucoup au niveau des maltes qui sont plutôt raillées, c'est le terme un peu plus technique dans le monde de la malterie. Il y a la torréfaction par exemple pour le café, ce que j'ai compris c'est que ça va être plutôt, tu prends une poêle et tu fais griller à même la poêle, et là c'est plutôt ventilé, c'est séché par le touraillage. Plus tu tourailles ton malt, plus il va se griller, et c'est pour ça par exemple les brunes, tu vas utiliser du malt très très grillé, et donc les ambrées, la distinction, elles se font beaucoup là-dessus, sur le type de malt. Et on assemble quatre maltes différents. Je dis pas lesquels.
Ah non, bien
c'est
sûr.
Nos recettes. On s'est aussi inspiré de recettes qu'on a trouvées dans des bouquins et sur
ça,
internet.
Vous êtes quand même parti sur un des trucs qui existaient.
Ouais, exactement.
Genre
ouais.
Exactement. Là, l'ambré, on est parti d'une recette existante. On l'a à peu près suivie, et puis là, on vient de la déguster. On s'est dit, bah, tiens, faudra peut-être ajouter la prochaine fois un peu plus de telle malte pour faire ressortir le goût biscuité. Et après, voilà, là, on a une base, un cadre, et puis
Après, on va jouer sur les houblons aussi, parce que les houblons locaux, on a quand même, il y a quand même une offre sympa. Il y en a plusieurs variétés. Et donc, on va essayer de changer un petit peu les houblonnages avec une base de malt qui est toujours la même. Et puis après, se fixer sur le malt et les houblons, une fois qu'on sera satisfait.
Et là, il est gros comment, le cahier, avec toutes les recettes, là ? Ça doit être un truc de fou, non ?
Il n'est pas énorme pour l'instant, regarde.
Vas-y, moi je veux regarder, les auditeurs ils peuvent pas regarder, mais pour voir à quoi ça ressemble.
On a le droit de l'ouvrir,
Max. Ouvre-le juste, je me donne un avis. Ouais, voilà, vous êtes sur des quantités de des litres, des quantités de kilos, quoi.
Des kilos,
voilà.
Des litres, des paliers de température et des horaires.
Ah oui, des paliers.
Pour les, tu vois, pour les différentes phases de fabrication. Et puis.
Du coup, on voit que vous brassez toujours à la même heure, hein, quand même.
Ah bah, on essaie de démarrer assez tôt, surtout quand on en fait deux, parce que sinon on finit vraiment tard.
Ouais, et puis 2018 là à peu près.
Et là il y a tout là, octobre, on remonte septembre. Voilà, en fait, depuis le début, toutes les recettes.
Ah ouais, on a tout.
Là,
ouais.
Ça doit
on
être
a tout noté.
Celui-ci il doit commencer en décembre l'année dernière.
Premier, tu vois, il est.
Mais depuis un mois et demi.
Ah, vous êtes à l'informatique.
Voilà. Non, mais c'est que aussi on s'est déclaré, donc autant pour les douanes, pour le Alpes Control, et même pour nous, c'est beaucoup plus. Plus pro, on se fait des fiches brassage avec. Voilà, c'est les mêmes infos qu'il y a là.
Alors parlons un peu de toute cette réglementation, justement. Donc Alpes Control, c'est.
Vérifier que tu utilises bien des matières premières biologiques pour te délivrer dans un second temps le certificat d'agriculture biologique qu'on a reçu la semaine dernière. Et tout ce qui est ta méthode de travail et. Et puis l'aspect hygiène, sanitaire, tout ça, ils ne regardent pas trop ça. Ils s'en foutent. Enfin, ce n'est pas leur boulot. Là où ils peuvent regarder ta méthode de travail, c'est si tu fais du bio et du conventionnel. Si tu utilises le même moulin pour moudre, par exemple, du malt non bio et du malt bio, ils vont te demander quel est ton protocole qui fait que les deux...
Entre les deux.
Voilà. Nous, c'était assez facile parce qu'on était tout de suite sur des matières premières bio. On est une micro-micro-brasserie. Une picolinette, non, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais donc on avait peu de matières premières et tout en bio, donc ça a été assez simple le contrôle, mais c'est quand même un contrôle assez sérieux qui a duré 3 heures. Ils ont pesé toutes nos matières premières pour faire une photo en fait de nos stocks et ils vont repasser dans 6 mois et le prochain contrôle est dans 1 an. Il y a 2 visites par an et ils ont vérifié le numéro de lot de tous nos produits, nos factures, les bons de livraison, tout ça. Donc après nous on ignorait en fait les démarches et comment ça allait se passer. On est quand même assez rassurés de. Enfin voilà, c'est des vrais contrôles et par rapport pour les consommateurs, je trouvais que c'était.
Ça sécurise quand même, finalement.
Ouais, parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu des idées reçues en disant tu achètes ton label, tu. Mais derrière, s'il y a quand même un. Enfin on a trouvé que le contrôle était sérieux. Et voilà, et là on est très content de pouvoir maintenant pouvoir apposer le petit logo, le petit label. On te montrera les étiquettes après.
Bon, alors là, ça coule. J'ai envie d'écouter comment ça coule.
Ouais.
Ça a déjà la couleur de la bière, quoi. Mais ça sent pas du tout. Ça sent pas du tout.
Je vais te faire goûter, là, celle-là.
Tu verras, là. Quand elle sort, c'est pas très cool. J'ai amené des verres. Hein. Attends.
Bon, vous êtes aussi parti du coup plein pot sur le marketing, hein, forcément.
Bah, un petit peu, il faut quand même.
Il y a déjà des étiquettes, tu vois, on pourrait se dire, en fait, là, vu que l'entreprise se lance, en fait, vous êtes prêt avant.
Ah ouais, bien sûr, ouais. Mais l'étiquette, de toute façon, c'est obligatoire.
Ouais.
Donc, bah ouais.
Tu peux pas vendre sans étiquette.
Non, tu peux pas vendre sans étiquette. En plus, tu as des mentions obligatoires sur les étiquettes. Donc, non, tu peux pas t'en passer.
Alors d'abord, pourquoi après l'orage ? Fallait qu'on vous la pose d'entrée de jeu.
Bah,
comme ça, c'est fait. Vous pourrez dire à tous les autres journalistes, c'est bon, on a déjà arrêté.
C'est bon, écoutez Ardiwa, vous saurez quoi. Après l'orage, parce qu'on voulait un nom qui soit assez poétique. On voulait un nom qui rappelle l'élément. C'est pas bon.
Écoutez le bachar. C'est super étonnant.
Précise que c'est pas la bière finie quand même.
C'est là, c'est lui qui a dit que c'est dégueulasse. Moi j'ai juste toussé.
Tu peux m'en mettre pour moi.
C'est que c'est très le houblon est très puissant et c'est poivré, ça prend la gorge.
Ouais, c'est quelque chose.
Ouais, c'est costaud quand ça sort comme ça.
Alors là, donc on a bu du. C'est avant fermentation totale.
Mais après là, je vous ai houblon.
coup, c'est très fort et c'est pas le plus agréable. Il aurait fallu que tu goûtes le mou avant qu'on ça parte à l'ébullition.
Non, mais une
et
fois
avant...
que tu le sais, c'est bon, tu peux y retourner. Non, mais c'est, j'ai été choqué. Pardon, donc j'ai coupé. Alors, après l'orage.
Donc, après l'orage, on voulait un nom poétique qui rappelle l'élément naturel dans son ensemble. Et puis, il y avait l'idée de notre amitié, notre complicité avec Max aussi. On voulait que ça, voilà, que ça apparaisse quelque part. Donc, on a cherché quand même pas mal de temps. On a fait pas mal de brainstorming. Et puis,
comment ça, votre complicité avec Max, fallait qu'elle apparaisse? Parce qu'après l'orage, on a l'impression qu'effectivement,
ouais,
vous foutez sur la gueule.
Mais non, mais...
Pas n'importe quoi.
Il faut j'explique non, il faut me laisser finir, c'est pour ça.
Ah oui, c'est pour ça.
Et donc, un jour est sorti après la pluie. J'étais avec Camille, ma femme. Elle me dit après la pluie, je dis j'aime bien l'idée. Et puis je dis après l'orage, c'est un peu plus... voilà. Et donc du coup, on a dit ah ouais, ça pète. Donc je l'ai transmis à Max qui a quasi tout de suite adhéré. Donc voilà. Et du coup, après l'orage, eh ben, y a cette idée de... Il y a ce côté très tellurique. Tu vois un gros orage sur la montagne qui arrive, qui fracasse tout.
C'est très Marignac.
C'est très Marignac. Bah, on est quand même au pied de l'Aiglette et du bout de Saint-Genis. Donc on est inspiré. C'est vrai qu'il faut dire ce qui est. Donc voilà, t'as cet orage, et puis après l'orage, qu'est-ce qui se passe? C'est réconfortant, ça fait du bien, on se met au chaud, tu vois, et puis on s'ouvre une petite bière, et ça va beaucoup mieux. Donc il y a l'idée, tu vois, d'amitié, voilà, d'être ensemble et de profiter de bons moments, quoi. Et puis, quand même important, un petit clin d'œil, c'était lors du premier confinement. Donc il y avait aussi cette idée de la sortie du confinement qui était attendue. Donc après l'orage, après la tempête, ça va mieux, quoi.
Voilà. Et puis sur l'étiquette, je vais un peu la décrire. On voit un petit l'oiseau, c'est un vautour, l'oiseau emblématique du Vercors. Ça, c'est le petit clin d'œil pour le Vercors. Et puis, on a un triangle qui symbolise une montagne et qui symbolise le A de après l'orage. Et un soleil qui sort de la montagne, comme si le soleil, après l'orage, il y a les rayons du soleil arrivent, qui forment le O de orage. Ça, c'est le côté un peu visuel, logo.
Qui vous l'a fait ?
Ah oui, c'est bien que tu demandes parce que on va pouvoir lui rendre hommage. C'est Bertrand Vignolous, un ami de longue date qui vit à Cré, qui est designer. Il fait pas de logo d'habitude, très peu, mais voilà, comme c'est un bon copain, il s'était proposé de nous filer un coup de main. Et donc lui, il est designer, il a une boîte qui s'appelle Entre Autres à Cré. Voilà, donc on le remercie parce qu'il nous a fait un sacré boulot qui lui a pris beaucoup de temps et on est très très satisfait du résultat. Et on a été très soutenu par Arnaud Micelli qui est infographiste, enfin qui est pas que infographiste mais qui maîtrise bien les outils informatiques et qui nous a beaucoup aidé pour la mise en page, pour les finitions de l'étiquette, même sur les couleurs aussi, il a été de très bons conseils. Il nous a, voilà, tous les deux nous ont vraiment beaucoup aidé pour la finalisation des étiquettes, la création et la finalisation.
Voilà. Est-ce que tu disais tout à l'heure, on le note là, c'est des étiquettes sur lesquelles vous avez vous-même imprimé un petit, une petite pastille.
C'est ça.
Houblon de Boulk, houblon de Montlore. Toutes les étiquettes n'auront pas forcément ces pastilles des fois, mais quand c'est le cas...
C'est ça, là nous on s'est créé un petit logo, ouais, une petite pastille, pour, là c'est en termes de communication, pour le valoriser, pour aussi... faire un petit clin d'œil aux producteurs. C'est pour ça qu'on a voulu le dissocier. On aurait pu juste mettre houblon local, mais ça nous tenait à cœur de préciser Boulk et Montlore, parce que voilà, pour dire qu'ils sont deux, il y a deux houblonnières dans le Diois. Et comme tu peux le voir, sur la blonde, on l'a pas mis, parce que sur notre recette de blonde qu'on a un peu stabilisée, on l'avait stabilisée avec d'autres houblons, on les avait pas encore utilisés. Donc là, on l'a pas mise. Et on sait qu'on finira pas l'année avec les houblons locaux parce qu'on n'en a pas énormément. Donc l'idée là, c'est d'essayer d'évaluer pour la saison prochaine combien de houblons il nous faudrait qui nous ont plu. Parce que là, on en teste. Puis d'essayer de passer commande pour tenir une année et d'essayer d'être qu'avec du houblon local.
On vous trouve où?
Ah.
Ici déjà.
C'est ce que j'allais dire. En premier lieu, à la brasserie.
Alors, la brasserie est route de la Scie. Parce que moi, je me suis perdu. Hein.
234 route de la Scie à Marignac.
Je suis allé trop loin.
C'est un mini hameau, un tout petit hameau.
Juste après la base de loisirs que beaucoup de gens connaissent, pour le Zikinwood, par exemple.
Exactement. Voilà. C'est bien que tu refasses un petit clin d'œil. Il nous a manqué cette année.
D'ailleurs, donc, ils ne vont plus que vendre que votre bière. Maintenant, ils vont être obligés de... Non,
y a une attente du comité des fêtes. Mais en parlant de ça, c'est vrai que par rapport au village de Marignac, notre projet de brasserie, il est assez bienvenu. Les gens sont plutôt contents et nous soutiennent.
D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les habitants de Marignac parce qu'ils viennent souvent à la brasserie nous acheter des bières, goûter les bières. Et
le comité. Vos premiers cobayes, quoi.
C'est ça. Il y en a qui sont jamais revenus.
Non, il y en a qui passent, mais juste pour dire bonjour.
Oui, il y en a qui nous achètent plus, mais ils viennent quand même nous dire bonjour.
Ça,
non, dans l'ensemble, ils reviennent tous. Et donc ça, c'est chouette et on les remercie vraiment beaucoup parce qu'ils jouent aussi le côté local. Et le comité des fêtes nous en a déjà testé sur des événements. Et ils attendent qu'on fasse du fût. Juste pour présent, on n'est que sur de la 75 centilitres pour l'instant en conditionnement. Et là, on vient d'acheter une tireuse, des fûts pour qu'on s'entraîne cet hiver, parce qu'il y a un autre petit savoir-faire à avoir. Et donc, eux attendent qu'on soit un petit peu opérationnel pour au moins le Zikin Wood, le vide-grenier et puis deux, trois événements du village. Ça leur plaît bien de pouvoir prendre la bière ici. Cet été, on s'est testé un petit peu avant. On a vendu un peu sur les marchés, donc ça, par rapport à la vente directe. On va continuer deux marchés. Donc le marché de Ruinel à Chapia avec Simon, qui est maraîcher. Il a ses serres vers la déchetterie. On les voit un petit peu, on les devine de la route. Donc il va reprendre normalement en avril ou fin dès qu'il aura de la production. Son idée, c'est de développer un petit marché de producteurs. Et il nous avait invités... Donc pour la saison dernière, et c'était plutôt sympa. Et ça, on a envie de le continuer. Ce sera le lundi soir de 17 à 20h. Et les jardins nourriciers, pareil, qui sont à Sainte-Croix avec la serre, ils font vente directe. Et en association avec l'association de Valdequin, ils voulaient aussi, ça leur plaisait d'avoir d'autres producteurs. Donc ils nous avaient invités à proposer notre bière. Et s'ils le pérennisent, je pense que ce sera le cas, ce sera le mardi soir à Sainte-Croix, le long de la Sûre. Donc sur ces deux petits marchés-là. Et là, sinon, on peut nous trouver actuellement à la Carline. Carline qui nous a quand même bien aussi, qui ont été soutenus dans notre projet. On les voyait souvent parce qu'on travaillait beaucoup avec l'Ograp. Et tout de suite, ils étaient aux premières lignes. On leur a fait goûter. Ils ont aimé tout de suite et ils ont tout de suite voulu nous commercialiser. Donc à la Carline. Et là, cette semaine, on vient d'intégrer Super U. Et on va aussi être chez Cyril Brugier chez Vival. Tout doucement, le réseau de distribution s'étend. Après, on est sur une toute petite production. Donc, on ne veut pas non plus trop se précipiter tant qu'on n'a pas nos cuves en 200 litres pour ne pas fournir. Et puis, deux semaines après, ne pas pouvoir fournir.
Voilà, en termes de bouteilles, de colle.
Là, on doit sortir à peu près 500 bouteilles mois, je dirais. Comme ça, la louche, il faudrait que je regarde plus précisément. Et avec la brasserie en 200 litres, on va pouvoir doubler notre production de bouteilles. Et là, on pourra un petit peu plus étendre notre distribution.
Surtout si le réseau Grappe vous prend jusqu'à Lyon, quoi.
Ouais, ça c'est...
Faut que t'enlèves ta maison, enfin, faut changer le... C'est toi qui vas habiter dans la cave.
Des fois, on aimerait pousser les murs, c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, ce réseau Grappe, ils ont un système de... Je crois qu'ils appellent ça le colibri. Et il y a un camion qui passe à Grappe d'Audi et puis qui va distribuer dans les épiceries intégrées ou associées à ce groupement. Donc là, c'est intéressant, peut-être pas en termes de volume de bière, mais en tout cas de pouvoir placer aussi sa bière dans des épiceries bio et un petit peu plus loin, sans trop faire des bornes pour deux cartons, trois cartons. Donc ça permet un échange sympa. Mais la vente directe, c'est chouette aussi, là, pour revenir. Ça marche bien. Des fois, on fait des petites livraisons aux copains aussi. Donc, voilà,
sur Internet, bon, vous avez un Facebook, mais il n'y a pas de site encore.
Si, il est en création. C'est le frère de Martin qui est en train de le faire. Et ça traîne un peu parce qu'il faut qu'on envoie des photos un peu sympas, pro, pour le site. Mais je pense que c'est une histoire de quelques mois. Mais il est en création, hein, c'est bien parti. Et on remercie le frère de Martin. D'ailleurs, de prendre un peu de temps pour nous aider à la confection de ce site. Et du coup, on est sur les réseaux sociaux. Facebook, que je découvre. Je n'avais jamais utilisé Facebook. Donc, c'était un peu compliqué au début, mais là, ça y est. On poste quelques vidéos en ce moment-là. Et puis Instagram, voilà. Mais ça marche bien. Les gens, du coup, sont réceptifs. Nous ont déjà contactés via Facebook pour nous acheter de la bière.
Vous interviewer.
Ou nous interviewer, c'est vrai?
Ouais, ouais, c'est comme ça que je l'ai vu apparaître, parce qu'on peut quand même le dire que c'est resté, et c'est bien normal, puisque ça vient de se lancer au mois d'octobre, un peu intime, cette histoire. Moi, je l'ai quand même un peu découvert, j'avoue.
D'accord. En fait, on n'était pas secret sur le sujet, mais on y allait, je pense qu'on avançait avec prudence, et on voyait que c'était aussi long de le mettre en place, vraiment concrètement, ce projet. Et on ne savait pas vraiment quand est-ce qu'on allait être prêt, vraiment, et structuré à vendre, à fournir et tout ça. Donc le réseau très proche était au courant, les collègues brasseurs étaient au courant aussi, parce qu'on est allé les voir plusieurs fois. Mais tant que ce n'était pas sûr et qu'on n'avait pas de date précise pour l'officialiser, on préférait pas trop s'avancer sur la communication.
Vous pensez en vivre quand, Martin, cette histoire ?
Eh bien écoute, ce qui est sûr, c'est que d'ici 2 ans maximum, il faut qu'on en vive tous les deux. Parce que Max, en fait, il aura plus de chômage d'ici 6-7 mois. Donc là, on a prévu de tirer déjà un petit salaire pour lui. Et dans 2 ans, ben moi, ce sera pareil, j'aurai plus d'aide. Donc il faudra qu'on se tire 2 salaires. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, il va falloir qu'on bouge, qu'on change d'endroit le plus tôt possible. Mais pas trop vite non plus, parce que qui dit changer d'endroit, dit changer de matériel. Qui dit changer de matériel, dit peut-être un peu de temps, voire beaucoup, pour s'adapter, prendre la main avec ce matos, etc. Donc on ne peut pas brûler les étapes. C'est pour ça que l'on a fait le choix d'agrandir nos cuves tout en restant ici. Ça va rester du petit matériel qu'on pense pouvoir prendre en main assez facilement. Et puis du coup, augmenter notre production un petit peu, payer un salaire à Max. Et puis en parallèle, on cherche un lieu pour s'étendre et là s'installer avec des cuves de 500 litres, voire de 800 litres. 800 litres, ce serait l'idéal. Et parce que c'est à partir d'on va dire 500 litres minimum par brassin qu'on arrivera à se salarier tous les deux. Donc en restant ici, on ne pourra pas. Mais voilà, ça nous permet d'y aller par étapes et avec ces objectifs-là. Quoi.
Ce serait donc rester sur Marignac quand même. Est-ce que tu parlais du soutien des habitants, comment on trouve un local comme ça? Vous avez déjà des perspectives?
Bah, c'est pas évident, on en parle beaucoup, un peu à tout le monde, pour essayer d'optimiser nos chances de trouver un local. Comme on le sait, dans le Diwa, tout est pris d'assaut assez vite. Donc voilà, il n'y a pas de piste sérieuse pour l'instant sur Marignac. Nous, on aimerait bien essayer de rester plutôt sur l'ouest de Die, parce que de l'autre côté, y a déjà Babas avec la bascule, Laetitia, etc. Donc cette zone-là nous convient bien.
Mais tout le monde est au-dessus de Die, quoi. À Die ou au-dessus de Die, en fait, il n'y en a pas en bas.
Si, il y a la manivelle quand même.
Il est à Die, quoi.
Ouais.
Après, c'est sous.
Les trois becs, les gens sérieux.
Après,
ça part plutôt au cré.
Ouais.
Mais pour assurer les habitants, ben, ça nous tient quand même beaucoup à cœur de pouvoir rester à Marignac. Ça, c'est notre.
Alors trouvez-leur un local.
Voilà, comme disait Martin, sinon, peut-être la vallée de Quin aussi. On trouve que c'est une belle vallée. On aime les habitants. Enfin, voilà, on est bien intégrés ici aussi. Donc, ça nous plairait de pouvoir rester ici, ouais. Donc voilà, on cherche un local sur Marignac de 200 mètres carrés.
Oh, et malgré tout, on reste aussi ouvert aux opportunités sur Die.
Oui.
Parce que si, bon voilà, Die, c'est peu probable, mais si on a une offre sur Die même, ce serait aussi valable, quoi. On l'étudierait en tout cas. Voilà. Est-ce que tu veux goûter une bière ?
Bah oui, je veux goûter
une bière.
On a mis au frigo une américaine.
Ah bah voilà, buvons, dégustons.
Et là, on lance.
Donc là, c'est reparti. Ouais,
ouais, on relance. Et donc, quand on aura les cuves en 200 litres, en fait, on fera le processus qu'une seule fois. Voilà, au lieu de 2 fois. Et on fera plus de bière. Toujours notre problème de produire.
Voilà, d'après les maîtres brasseurs, c'est vers 11h le matin que les papilles sont les plus disponibles pour se faire une idée.
Très bien.
Sur une bière ou autre chose. Hein.
Bon, il est 12h16.
Voilà, on a un peu dépassé, mais en même temps. Alors on rassure les gens, on ne déguste pas nos bières tous les jours et on les ouvre que quand il faut déguster une nouvelle bière pour savoir si elle est valable. Là, on en ouvre une parce que t'es là et ça nous fait bien plaisir de te payer un coup. Mais on reste sérieux avec ça quand même.
C'est vrai ?
Ah bah oui, carrément, ouais. À fond.
Sinon,
il faut. Ah bah sinon, c'est trop facile. Non, on n'ouvre pas des bières tous les jours, pas du tout. C'est une règle qu'on s'est fixée et on la respecte. Ah bah oui.
Faut calculer quoi, quelle perte ça vous ferait quoi.
Et bon, c'est ça.
T'as le droit d'en boire.
Faut pas boire notre stock là.
Non.
Bon, bah alors santé à vous.
Allez. Santé. À la tienne. Merci d'être venu jusqu'à nous.
À la tienne, à Radio Diwa.
Ça fait plaisir. Et on goûte donc.
American Pale Ale,
justement. Voilà. Ça, c'est que... Bon, on a été accompagné aussi par plein de musique.
Vous savez qu'on a toujours la musique là. C'est un petit peu un de nos points communs et c'est prégnant dans la brasserie, la musique.
S'il n'y en a pas, c'est...
On n'est pas bien. Ouais, c'est vrai.
Ça vous arrive d'oublier l'enceinte?
Si, ah. Ça, bien sûr, ça nous arrive. Mais c'est vrai que généralement, au bout d'un moment, on dit « Putain, la musique !» Paf. Et on se met la musique et...
Voilà, bah voilà, moi première impression c'est ultra frais, c'est ultra... C'est la bière qu'on peut boire plutôt au chaud, tu vois, que là on est un peu en hiver, mais...
Oui, il fait pas ça très va... chaud dans la cave.
Si, il fait grave chaud dans votre cave.
Tu veux dire que ah, c'est
déjà, j'ai pas quitté ma veste
devant la porte, ouais, c'est vrai.
Mais non,
tu veux dire que si c'était 30 degrés, tu l'apprécierais autant.
Je pense, ouais. Mmh. Peut-être plus.
Mmh. Et celle-là, elle est plus tournée sur les houblons. On associe... pas voilà. Mal de houblon sur celle-là.
Avec
on fait
une amertume quand même assez douce.
Là, qu'on sent quand même, tu vois.
On sent bien. Moi, j'adore les IPA, tu vois. Ouais.
Ben là, c'est pas une IPA, mais c'est quand même une bière qui est quand même... où il y a un bon assemblage de houblon et on fait un houblonnage à repu. Donc on refait, on remet du houblon dans le fermenteur. On ouvre le capot du fermenteur. On réintègre un peu de houblon. Ouais, pour avoir un peu plus d'arôme.
Ah, vous en avez déjà trop dit.
Presque. Non, ça, on a fait une super vidéo sur Facebook. Il faut aller sur notre compte Facebook, vous verrez, il y a une super vidéo qui explique le houblonnage à cru.
Comme on est assez doué en termes de jeu d'acteur et de comédien, on s'est dit, bah, autant en faire profiter les gens. Donc, on se pose des vidéos de nous sur Facebook. Et puis, on met en avant ce talent d'acteur. Tu pourras aller voir. On vous invite à aller voir nos vidéos sur Facebook.
On va mettre tous les liens sur la page.
À liker si vous les aimez et du coup et puis voir nos talents d'acteurs.
Donc on va retrouver effectivement sur RDIWA 107.5 FM à l'instant, mais sur internet tout à l'heure cet entretien avec vous deux, Martin, Maxime, de la brasserie Après l'orage à Marignac. Merci.
Je profite juste. Pour faire des petits remerciements, j'en ai déjà fait là, pendant l'interview, mais c'était
on voulait bois pendant ça.
Ouais, vas-y. On voulait remercier nos femmes aussi parce qu'un changement de vie professionnelle ça peut faire flipper, enfin ça vient déstabiliser une organisation de famille, de vie de couple et tout ça, et elles ont toujours été très soutenantes par rapport à ce projet.
Est-ce qu'elles aiment la bière ou
pas tant que ça,
sans plus, fans, ouais, sans plus 20. Elles nous font l'honneur de déguster chaque nouvelle bière, de nous donner leur avis. C'est toujours très sympa.
Et puis à chaque fois, en plus, elles sont sympas parce qu'elles disent « c'est super bon
!» C'est pas du tout.
Non, parfois, elles disent qu'elles n'aiment pas, heureusement d'ailleurs.
Et puis, remercier tous les brasseurs qui nous ont accueillis là, du Diwa. La Manivelle, la Bascule, la Cavale et la Houlette qui nous ont vraiment bien accueillis et puis donné plein de tuyaux. Et voilà, c'était quand même bienveillant. Remercier tous les copains qui étaient là au début du projet, qui sont venus goûter, qui nous en ont acheté.
Encouragé à fond, en fait.
Ouais, c'est toujours pareil, bienveillant. Les habitants de Marignac aussi. Et puis voilà, je sais pas si j'oublie.
Le Grappe et puis oui, les distributeurs grap. qui nous soutiennent maintenant.
Le Grappe qui nous a bien aidé quand même à accélérer les démarches, enfin d'être assez soutenant dans la construction du projet.
À prendre confiance, voilà. Et puis à y aller assez vite, en fait.
Et puis Radio Diwa, qui vient se déplace à la brasserie pour nous interviewer. Ça,
exactement,
c'est sympa.
Exactement. Et puis un petit clin d'œil aux enfants aussi, qui nous soutiennent à fond, qui sont toujours là pour venir...
On les délaisse un peu.
De temps en temps, on les délaisse un petit peu, parce qu'on est bien occupés, et ils s'occupent bien, et puis ils nous encouragent vachement aussi.
Il faut les mettre au moulin.
Bah, de temps en temps, ouais, ça arrive.
Des fois, ils nous aident. Ouais. Mais bon, comme ils collent les étiquettes de travers ou des trucs comme ça...
c'est cool, ça. Ça n'a jamais été fait.
Un nouveau design.
Ouais, si, moi j'en fais un peu des étiquettes de travers. Donc, toutes les bouteilles, soyez indulgents, s'il vous plaît. Avec étiquettes de travers, c'est moi, c'est Maxime qui... Des fois, je vais un peu vite et voilà, c'est pas très bien collé. On va s'améliorer.
L'interview du jour.